Vous allez écouter Quartier Libre, réalisé en partenariat avec l'État, la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venessin, le conseil départemental, la ville de Carpentras et les bailleurs sociaux.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne d'RTVFM dans l'émission Quartier Libre. Sous un nouveau format, cette émission mettra en avant les actions, l'actualité, les événements qui ont lieu tout au long de l'année dans les quartiers prioritaires de Carpentras. Et vous allez l'entendre à travers nos différents reportages, il s'en passe des choses. Et pour cette première émission, nous allons parler du quartier du Pou du Plan, dont 4% de la population de Carpentras y réside, soit 1142 habitants au dernier décompte. Nous allons aborder à travers les différents reportages la question de la réhabilitation et du logement, et nous mettrons en avant les actions qui n'existent qu'au bout du plan. Et pour commencer cette émission, nous allons parler de réhabilitation et de logement, avec notamment la fin de la réhabilitation d'envergure qui visait à réhabiliter cette cité de Carpentras par le bailleur social Valis Habitat. Où en sommes-nous? Quand sera livré l'ensemble des logements? Toutes les réponses, c'est maintenant avec l'interview du directeur général de Valis Habitat. Monsieur Beaujolin Lucas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de Valis Habitat. Merci de prendre quelques minutes pour répondre à notre interview sur le quartier du Pou du Plan et notamment la réhabilitation du Pou du Plan. Alors, on va rappeler peut-être un petit peu la genèse de ce quartier, de cette réhabilitation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'historique, peut-être?
Oui, effectivement, il s'agit d'un quartier emblématique de la ville de Carpentras et aussi pour l'office Valis Habitat avec 432 logements. Et des travaux de réhabilitation qui sont prévus depuis plusieurs années. On est évidemment sur un chantier au long cours, avec une première étape qui a été la concertation de nos locataires en 2016 pour la première tranche de travaux et en 2019 pour la seconde tranche. Et puis un démarrage des travaux qui s'est fait en plusieurs étapes, mais entre 2018 et 2019. Et c'est vrai que c'est intéressant pour nous de parler de ce projet-là aujourd'hui, puisque au mois de septembre, nous allons livrer les derniers logements et la dernière partie du chantier. Donc on arrive au bout de ce chantier ambitieux qui a fortement changé l'aspect du quartier, la qualité de vie des habitants et qui correspond à un investissement d'un peu plus de 21 millions d'euros pour l'office.
Alors vous parlez de modifier justement l'image de ce quartier. L'objectif au départ de cette réhabilitation, c'était quoi? C'était réduire la facture énergétique?
Alors il y a toujours deux objectifs quand on est sur des travaux de réhabilitation d'une telle ampleur, d'un tel niveau. C'est d'une part effectivement améliorer la qualité de vie de nos habitants, ça passe par l'amélioration technique du bâti. Hein. Et très concrètement, pour l'illustrer et faire écho avec l'actualité, les travaux de réhabilitation, entre autres l'amélioration de l'isolation, de la ventilation, des choses comme ça, vont permettre de pouvoir réduire de 30% les charges d'énergie dans ce bâtiment et évidemment de pouvoir améliorer fortement la qualité de vie de nos locataires, en particulier dans cette période où le coût de l'énergie augmente fortement. Et l'amélioration énergétique de ce bâtiment se voit par l'amélioration du DPE, puisque à l'issue de la réhabilitation, 100% des logements seront au moins en DPE-B, donc avec une très bonne qualité d'isolation et de qualité thermique. C'est aussi d'améliorer l'image du quartier. Ça passe par une modification très forte des façades. Quand on passe devant le Pou du Plan, on voit très bien la différence avant-après travaux, et c'était évidemment un objectif. Ça passe aussi par la réfection d'ensemble des halls, des montées d'escaliers qui permettent aux locataires, quand ils rentrent chez eux, de bien voir l'amélioration de leur bâti et l'investissement qui est fait sur leur résidence.
Alors, est-ce qu'il va y avoir peut-être d'autres projets envisagés au Pou du Plan dans les prochaines années, après ces grands travaux?
Alors, il reste un travail important qui doit être mené sur les espaces extérieurs, en partenariat avec la mairie qui est propriétaire d'une partie de ces espaces, afin de pouvoir terminer et de pouvoir faire en sorte que les circulations et les espaces extérieurs du quartier soient retravaillés à la suite du travail qui a été fait sur le bâti, sur les logements et les bâtiments.
Alors vous me parliez donc de 432 logements. Qui a financé peut-être l'ensemble? Vous nous avez parlé de 20 millions d'euros, je crois, et qui a financé l'ensemble un petit peu?
Alors essentiellement, ce type de projet est financé par emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Donc l'immense majorité de la réhabilitation a été financée par emprunt et néanmoins, on a été subventionné par le conseil départemental et la région à hauteur d'à peu près 1,5 million d'euros. Et puis l'office a quant à lui directement mis des fonds propres dans l'opération, à peu près 10% de l'opération qui a été financée sur fonds propres. Et puis ensuite, ce sera tout simplement de nouvelles annuités d'emprunt sur 30, 40 ans qui permettront de financer dans le temps cette opération.
Est-ce que vous souhaitez peut-être rajouter quelque chose au sujet de la réhabilitation du Pouls-du-Plan ou peut-être dans d'autres quartiers de Carpentras qui vont être concernés?
Alors oui, effectivement, l'office Balis Habitat est implanté sur d'autres quartiers importants de la ville, entre autres les Amandiers ou les Éléphants, avec des réhabilitations qui sont prévues. Je pense en particulier sur les Amandiers avec une opération de travaux qui devrait débuter en 2023, donc on est proche maintenant, et qui s'étendra jusqu'à 2025, qui correspond là aussi à un investissement important, 12 millions d'euros pour un peu moins de 300 logements, 286 logements. Donc il y a, en partenariat avec la mairie, un investissement fort sur ces quartiers qui ont des besoins importants et qui participent, malgré les autres problématiques qui peuvent exister sur ces secteurs, à l'amélioration de la qualité de vie de nos locataires et des habitants.
Et on l'a bien compris, voilà, une amélioration de la qualité de vie. Et on le voit d'ailleurs sur le Pouls-du-Plan. Donc, on l'a bien compris, livraison courant septembre, voilà, pour la fin des travaux de cette réhabilitation sur ces trois tranches qu'il y a eu donc, depuis 2016.
Effectivement, on arrive au bout de ce chantier important.
Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Beaujolin-Lucas. Donc, je rappelle, vous êtes directeur général de Valis Habitat et merci d'avoir pris quelques minutes. On sait votre temps est compté et donc merci de nous avoir un petit peu fait écho donc, suite à ces réhabilitations du Pouls-du-Plan. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités.
Vous le savez, dans cette émission, nous donnons aussi la parole aux habitants. Que pensent-ils de cette rénovation et de la nouvelle image du quartier? Les réponses dans notre interview. Et nous sommes aujourd'hui avec des habitantes du Pouls-du-Plan, où on parlait réhabilitation du Pouls-du-Plan. Qu'est-ce qu'elles en ont pensé de cette réhabilitation des logements de Valis Habitat? Tout d'abord, bonjour à toutes les deux.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu?
Je pensais que c'était une bonne chose faire des travaux dans les appartements et l'extérieur aussi. Il y a des points positifs et négatifs.
Concrètement, est-ce que les étapes de cette réhabilitation ont été bien gérées?
Oui, normalement, oui. Comme ils se sont mis sur trois tranches, et après, bon, ils ont mis la 3 et la deuxième tranche en même temps, lancement des travaux en même temps. C'est vrai que, bon, il y avait des petits retards par-ci, par-là, mais ça, c'est normal, je pense.
Cela va-t-il permettre de vous faire des économies au niveau énergie, moins de déperdition thermique?
Ouais, les économies, je les vois pas encore, parce qu'on a plus de gaspillage que l'économie. Niveau chauffage, pour l'instant, c'est pas à nous qu'on gère, hein. On verra ça après. Mais l'économie dans le chauffe-eau, par exemple, il n'y a pas d'économie là-dedans, parce qu'on perd énormément d'eau. Entre arrêter l'eau et reprendre l'eau, on perd énormément d'eau.
Alors, est-ce que vous aussi, dans votre logement, vous avez pareil, le même problème?
Pareil, le même problème. On gaspille tellement d'eau, c'est énorme.
Pourquoi?
C'est pour que l'eau, pour l'eau chaude, déjà dans la douche, ça met un temps à venir. Et on gaspille beaucoup d'eau, ouais, pour que l'eau, elle arrive. Je trouve que c'est... On avait fait une réunion, on avait parlé, ils ont dit qu'ils allaient voir. Mais toujours pareil, ça n'a pas changé.
Sur quoi ont porté concrètement les travaux dans vos logements? Je vais commencer avec vous.
Sur des parties comme salle de bain, toilette, douche. Voilà, ça c'est l'intérieur. Puis bon, changement de chauffe-eau bien sûr, hein. Les chauffages. Et après, bon, il y a des façades, les balcons, les vitres, voilà, les fenêtres. Voilà, c'est ça qu'il y avait des travaux.
C'est des travaux qui ont duré combien de temps pour vous?
Moi, les vitres, c'était à part, ça n'a rien à voir. Hein. Et tout ce qui était salle de bain et tout, ça m'a 4-5 jours dans la petite semaine. Quoi. Voilà. Non, ça a été, j'ai pas eu de complications avec les ouvriers, j'ai pas eu de problème parce que, en fait, moi, c'est peut-être particulier. J'avais un incendie, alors j'ai fait des travaux en vent. Ça a été plus facile, plus rapide peut-être, mais c'est vrai que chez certains, ils avaient beaucoup de complications. Niveau électricité, il y avait aussi beaucoup de choses qui marchaient. C'est pas qu'ils marchaient pas, c'est qu'ils sont peut-être mal faits. Et en même temps, au niveau l'installation des prises et tout, il y a beaucoup de monde qui n'étaient pas contents de l'installation. C'est surtout ça, mais c'est chacun en fait, comment il reçoit son problème des travaux quoi, à l'intérieur.
Pour vous, on l'a compris, pas énormément de soucis.
Oui.
Et pour vous, alors, les travaux ont porté sur quoi? Est-ce qu'il y a eu des problèmes?
Ils ont touché la salle de bain, comme disait ma collègue, tout. La douche, la cuisine, le chauffage. Et moi, ça a duré 2 semaines. Après, tout ce qui est électricité, c'est pareil. Les baguettes, ça a été mal mis. J'ai réclamé plusieurs fois, ils ne sont toujours pas venus. Et voilà, moi ça a été franchement, ils venaient, rentraient, c'était mal.
Alors est-ce qu'il y a des points positifs dans tout ça, dans toute cette réhabilitation, des points négatifs?
Points positifs, la propreté, l'image de quartier, à changer. C'est très joli de l'extérieur, mais un petit bémol niveau balcon. On revient à des rideaux installés au lieu qu'il y a des jolis stores. Laisser l'image correcte, ça gâche ça un petit peu. Voilà, mais l'intérieur aussi, c'est bien, c'est propre. Ça reste à voir la suite. Je ne sais pas si pour tout le monde, on a un niveau de cadre des portes en bas, ça commence à être ruiné par en bas. Alors, est-ce que c'est... Ça, je pense que c'est dur de le mettre en propre. Mais sinon, au niveau à l'intérieur, ça va. Pour l'instant, ça va. C'est vrai que, bon, les chauffages, ils sont bien installés. Mais on a toujours leur installation à vue, quoi. Ils ne sont pas cachés, ils ne sont pas protégés. Mais sinon, ça va.
La rénovation des logements passe aussi par l'accompagnement des habitants et habitantes afin qu'ils puissent réaliser des travaux dans leur logement de manière autonome grâce à l'auto-réhabilitation accompagnée ou encore grâce à la mise à disposition d'une bricothèque. Nous avons souhaité en savoir plus. Et nous sommes avec Axel Schuller, animateur technique pour les compagnons Bâtisseurs Provence. Bonjour Axel.
Bonjour.
Alors, on va parler un petit peu aujourd'hui de la bricothèque. Mais qu'est-ce que c'est la bricothèque au bout du plan, Axel ?
Tout à fait. Donc, la bricothèque ou aussi l'outil-tech, c'est comme une bibliothèque, en fait, le même principe. Sauf que c'est des outils qui sont à disposition du public. Et tout comme dans une bibliothèque, vous pouvez venir choisir vos outils avec le conseil, repartir avec pour pouvoir les utiliser chez vous et les ramener une fois terminés.
Donc Axel, à quel endroit se situe peut-être le local où on peut venir récupérer ces outils ?
C'est au bout du plan, c'est le bâtiment G2, qui est donc face au cimetière. Le long de la route, l'association est visible, on a un petit drapeau des compagnons bâtisseurs, les locaux sont ouverts. Le public a qu'à s'avancer.
Alors Axel, quand les personnes viennent à ce local, quels sont peut-être les outils, les conseils qu'elles demandent ?
Donc ça va être assez aléatoire. Nous, le matériel qui est le nôtre à disposition du public, c'est essentiellement du matériel pour le second œuvre, donc pas pour les travaux lourds. Et les personnes qui s'avancent ici ont des demandes assez variées. Maintenant, régulièrement, les gens viennent chercher des tricoteuses pour pouvoir faire du petit mobilier. Un perforateur, par exemple, le perforateur pour pouvoir accrocher un cadre, par assez souvent. On a d'autres personnes qui ont des demandes un peu plus particulières, qui viennent travailler le bois. Donc là, vraiment, on s'adapte aux demandes du public. Et effectivement, on peut leur dispenser le conseil qui va avec quant à comment on utilise l'outil et les proportatifs ou la scie. On va donner des conseils quant à la peinture. Ça sera vraiment très, très varié. Ça peut s'apparenter à un petit cours de bricolage.
Ce cours de bricolage se passe uniquement dans le local ou est-ce que des fois vous pouvez être amené à aller rencontrer le public directement là où ils habitent ?
Donc voilà, effectivement, ça, là on est sur une autre action de l'association. Ça va être l'auto-réhabilitation accompagnée. Où là, on va devant des familles, on établit un diagnostic au domicile. En fonction de ce diagnostic, il y a des préconisations de travaux, entre guillemets, qui vont sortir. Et là, on accompagnera la famille au domicile sur les petits travaux qui sont les siens pour justement lui donner ses conseils, l'accompagner justement dans ces petits travaux. Donc là, vraiment, l'auto-réhabilitation accompagnée se fait au domicile. Et l'outil tech, là, va être ouverte à tout le monde d'ailleurs, à tout arpentant, hein, peu importe les habitants. C'est moins mobile, il y a plus de choix. Voilà, c'est une autre manière d'accompagner les habitants sur les travaux.
Alors, est-ce qu'il y a des exemples un petit peu d'accompagnement récents qui ont été faits dans le cadre de l'auto-réhabilitation accompagnée ?
Donc, dans le cadre de l'auto-réhabilitation accompagnée, ben nous on a une trentaine de chantiers dans l'année qui se déroulent sur des échéances de temps plus ou moins différentes. Mais on a eu accompagné une famille sur le détapissage d'une pièce, qui par le passé avait reçu des flammes d'incendie, donc qui était noircie, etc. Nous, on a accompagné la famille sur le détapissage, donc on y a montré déjà comment ça fonctionnait, on y a expliqué pourquoi, on l'a fait avec elle, et on l'a accompagné par la suite sur la remise en état du mur avec de l'enduit et de la peinture par la suite. Donc là où la famille était autonome, on lui a juste donné des conseils, on l'a accompagné. Là où la famille était plus en difficulté, aussi bien techniquement que physiquement, ben on les a accompagnés.
Alors est-ce que toutes ces actions, que ce soit l'auto-habitation accompagnée ou la bricothèque, ce sont des actions qui sont gratuites pour le public ?
Vu que c'est deux actions différentes, ça va se traduire différemment. L'outil tech, effectivement, est à disposition de tout le monde. C'est les locaux qui sont au bout du plan. N'importe qui peut venir. Pour pouvoir bénéficier du prêt d'outil, on demande quand même aux habitants d'adhérer à l'association. On leur fait une petite fiche de prêt, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, etc. Il n'y a pas de contrepartie financière, si ce n'est n'est que pour les appareils vapeur, parce qu'on accompagne les familles sur les problématiques de punaises de lit. Donc on a des appareils vapeur qui sont à disposition, où là on demande une petite caution parce que c'est du matériel très cher. L'outil tech vraiment reste gratuit, donc j'invite tout le monde à venir chercher conseils et outils si besoin. Là où l'auto-réhabilitation accompagnée, on demande une participation de la famille à hauteur de 10% sur les achats de matériaux. Donc ces 10% là, ça nous permet de faire le chantier sans que le financier soit un frein quand même.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas Axel Schuller. J'espère que nos auditeurs en sauront un petit peu plus maintenant sur la bricothèque outil tech, hein, appelée aussi de votre côté, ou encore l'auto-réhabilitation accompagnée. Puis à très bientôt peut-être sur les ondes d'RTVFM.
Merci à vous.
Des habitants ont pu bénéficier de l'auto-réhabilitation accompagnée du Pou du Plan avec les compagnons bâtisseurs. Elles nous en disent plus sur leur accompagnement. Et nous allons maintenant parler de l'auto-réhabilitation accompagnée dont certaines familles ont pu bénéficier au sein du Pou du Plan. Et donc je me trouve toujours avec deux habitantes du quartier du Pou du Plan où on va leur poser un petit peu la question. Quels ont été peut-être à l'époque les besoins que vous avez exprimés pour bénéficier de l'accompagnement de cette auto-réhabilitation accompagnée avec notamment les compagnons bâtisseurs?
Moi j'ai bénéficié à ranger des rangements des étagères, la peinture. En fait on apprend pas mal de choses avec la personne si on veut apprendre, et surtout maintenant ils ont un local qu'on peut faire tout sur place. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut emprunter des matériels de local, tout le type de matériel des travaux. Si on a besoin aussi d'aide, il vient à la maison, il donne son avis.
Pour vous, qu'est-ce que vous avez fait refaire? Ça vous a servi à quoi un petit peu cet accompagnement?
Ben moi, ça m'a servi à beaucoup de... J'ai fait aussi du rangement chez moi. J'avais fait les étagères, j'avais fait pas mal de choses et j'avais demandé à Mestral Habitat que je change le parquet là. Ils m'ont dit que dans le couloir, ils m'ont dit que c'était pas possible. Et du coup, comme on a connu la personne là, franchement, ça nous a beaucoup aidé. Et j'ai fait pas mal de choses chez moi, ça fait propre et je suis trop contente de...
Alors en détail, les étapes un petit peu, comment ça s'est passé, prise de contact, ensuite il est venu chez vous, il a vu un petit peu, vous lui avez montré ce qu'il pouvait faire, comment ça s'est passé?
On a pris rendez-vous avec lui, après il est venu voir à la maison, lui a dit ce qu'il fallait, qu'on devait changer, ce qu'on voulait faire, et après voilà, il nous a aidés, c'était franchement, je suis trop contente.
Là, au définitif, justement, tout est neuf?
Oui, moi, j'ai pris contact avec eux le moment qu'on les a découverts. C'était tout le début. Après, on parle très cadeau, bien sûr, et à une réunion. Et après, on a monté un dossier. Et après, bon, ça a été accordé, le dossier, bien sûr. Il faut que le dossier soit accordé. Et du coup, bon, après, on prend un rendez-vous. Et il est parti même avec moi au centre commercial. On a fait nos courses. Et voilà. Et après, on a bloqué des jours pour faire des travaux à la maison.
Donc, ces travaux, maintenant, s'ils n'étaient pas finis, vous êtes en autonomie. Vous êtes capable de les faire seul s'il reste des choses à faire?
Ben justement, j'ai un rendez-vous avec lui jeudi prochain pour apprendre à faire d'autres choses et à être autonome plus qu'attendre quelqu'un qui vient me faire quelque chose. Quoi.
Alors, parler de coût, bien évidemment, cette action dont vous avez bénéficié, est-ce qu'elle a eu un coût pour vous? Si oui, de combien?
Moi, ça m'a coûté 60 euros.
Et pour vous?
80 euros.
Ouais, et vous l'estimez à combien, normalement, les travaux qui ont été refaits?
Mes travaux à moi, ils étaient estimés entre 500 et 600 euros. Et je pense 600, vu que ça m'a coûté, moi, 60 euros.
10% donc, et pour vous?
Bah, je crois que c'était 600 euros, pareil. J'ai 80 euros. Franchement, c'est trop contente. C'est propre.
Alors, c'est propre. Est-ce que vous le conseilleriez peut-être à des habitants, des habitantes du quartier de passer par ce dispositif de l'auto-réhabilitation accompagnée?
Ah oui, bien sûr, à chaque fois qu'on a des personnes qui nous parlent des choses, on les conseille, on les accompagne justement au local pour qu'ils prennent rendez-vous avec eux et ils font l'échange. Oui, il y a pas mal de personnes qui ont pris contact avec lui.
Au Pou du Plan se déroulera très prochainement le projet Civigaz, une action qui vise notamment à agir pour les plus démunis et à améliorer la sécurité des installations gaz des clients de GRDF. Cette action en partenariat avec FAS, la Fondation Agir contre l'exclusion, se déroulera entre novembre 2002 et mai 2023 et fera appel à 6 jeunes volontaires en service civique qui viendront à la rencontre des habitants. Et nous recevons aujourd'hui Madame Carole Polo, directrice de la Fondation Agir contre l'exclusion de Vaucluse, FAS. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons aussi Monsieur Philippe Réchignac, directeur territorial Vaucluse chez GRDF. Bonjour.
Bonjour.
Et nous allons parler donc d'une action, c'est l'action Civigaz qui va avoir lieu au Pou du Plan à Carpentras. Mais tout d'abord, avant de parler de cette action, je voudrais avec Madame Polo parler un petit peu, présenter la Fondation Agir contre l'exclusion, FAS. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, la Fondation Agir contre l'exclusion est un grand mouvement d'entreprises qui sont engagées au niveau sociétal sur leur territoire. C'est un réseau national et puis en local, il y a des déclinaisons. FAS Vaucluse est une de ces déclinaisons-là. C'est une association d'entreprises qui a été créée au départ à Avignon en décembre 2010 et qui travaille aujourd'hui sur l'ensemble du territoire du département, sur des questions qui relèvent à la fois de l'emploi, de la lutte contre la précarité, contre les discriminations et de la présentation du monde de l'entreprise aux élèves qui relèvent des collèges REP et REP+. En fait, l'objet, c'est de pouvoir accompagner des entreprises du Vaucluse dans la mise en place de leur engagement sociétal.
Justement, avec quel partenariat vous agissez au quotidien, des États, des collectivités, des associations ?
Au niveau de la Fondation, on travaille à la fois avec le monde économique, donc les entreprises, mais aussi en lien très étroit avec le monde associatif qui nous aide dans nos actions et puis les institutions locales et l'État en général.
Ouais, et maintenant, on va parler un petit peu de ce projet Civigaz. Quel est le constat qui a amené à créer ce projet Civigaz ? On le rappelle qu'il est en partenariat avec GRDF.
Le constat qui a été fait, c'est que GRDF, en tant qu'entreprise de service public, se doit d'accompagner ses clients les plus en difficulté. Et c'est l'objectif de Civigaz, qui est d'accompagner les clients qui utilisent le chauffage au gaz sur deux thèmes. Premièrement, détecter les situations de précarité et sensibiliser les utilisateurs à la maîtrise de leur consommation. Et puis deuxièmement, prévenir les accidents domestiques en contrôlant la qualité de l'installation intérieure, de l'installation du client.
Concrètement, le rôle à ce niveau-là, l'accompagnement que vous allez avoir dans ce projet avec FAS, ça va être quoi ? Comment ça va fonctionner un petit peu ?
Nous sommes en partenariat avec FAS et concrètement, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir des visites à domicile chez les clients qui vont être faites par des jeunes. Des jeunes employés en service civique qui vont donc se rendre chez les clients de GRDF pour à la fois donner des conseils sur la maîtrise de l'énergie, donner des conseils également sur l'entretien de l'installation gaz, voire détecter des situations de précarité et orienter ensuite vers les dispositifs locaux d'aide et d'accompagnement de ces situations de précarité.
Et localement, il va y avoir une équipe qui va porter le projet ?
Voilà, donc c'est une équipe qui va porter le projet. Donc il va y avoir 6 jeunes en service civique qui vont être accompagnés par deux personnes de FAS qui vont accompagner ces 6 jeunes pendant toute l'opération.
Alors Madame Polo, pendant combien de temps va avoir lieu cette action au niveau du Pou du Plan ?
Alors, cette action va avoir lieu sur la période du chauffe, c'est-à-dire à partir du mois de novembre jusqu'à à peu près la fin du mois de mai. Ces jeunes en service civique seront effectivement accompagnés d'une médiatrice sur le terrain constamment, mais seront aussi accompagnés dans le cadre de leur insertion socio-professionnelle, puisque l'objet du service civique, c'est aussi de pouvoir aider ces jeunes-là dans la construction de leur projet professionnel et de pouvoir leur faire bénéficier du réseau d'entreprises que nous avons sur FAS Vaucluse.
Monsieur Réchignac, je crois savoir aussi qu'au niveau local, au-delà du Pou du Plan, l'action Civigaz va se réaliser ailleurs.
Oui, et effectivement, l'action Civigaz va se produire sur l'ensemble du territoire de la ville de Carpentras. Et donc, en partenariat à la fois avec la COV et avec la commune de Carpentras, et également les bailleurs sociaux qui travaillent sur ce territoire.
Alors, je crois savoir que cette action a un coût quand même. Par qui elle est financée ?
Cette action est financée en grande majorité par GRDF, hein, qui déploie cette action sur certaines zones en France.
Alors, au niveau des services civiques, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, justement, leur rôle concrètement, un rôle de sensibilisation notamment ?
Oui, les jeunes en service civique rentreront dans l'équipe à partir de leur motivation. Donc nous allons mener une campagne dès la semaine prochaine pour pouvoir avertir les jeunes de Carpentras, notamment ceux du Pou du Plan, mais également ceux des autres quartiers de Carpentras, pour leur présenter l'action et voir si elle pourrait les intéresser. Nous allons notamment participer à un civic dating où on pourra présenter réellement les offres de services civiques. Et du coup, les missions exactement qui seront menées pendant cette période de choc auprès des habitants qui sont chauffés au gaz individuel.
Monsieur Réchina, je crois savoir aussi que vous souhaitiez revenir sur l'accueil des habitants pour les personnes qui vont venir à leur rencontre un petit peu.
Et donc ces jeunes en service civique vont se rendre chez des habitants. Donc il est important que le meilleur accueil leur soit réservé. Il faut savoir que cette action, donc comme j'ai dit, se fait en partenariat avec la COV, la mairie de Carpentras et les bailleurs sociaux. Il faut savoir que c'est une visite qui est complètement entièrement gratuite pour les habitants. Les jeunes qui se présenteront à eux auront une tenue spécifique. On peut facilement les reconnaître. La tenue sera bleue et floquée. Stocker Civigaz, et il faut savoir que cette opération sera accompagnée d'un affichage dans les halls d'immeubles, et donc elle se déroulera pendant l'hiver, la période de chaud, de novembre à mai. Et
justement, c'est la question que j'allais vous poser, comment on peut avoir toutes les informations pour le public qui est au bout du plan en affichage, et est-ce qu'il y a peut-être sur un site internet peut-être des informations, un numéro de téléphone aussi?
Oui, complètement. On peut appeler FAS directement au bureau où on donnera toutes les informations au 04 90 87 77 50 ou aller sur notre site internet www.fasvauclus.org ou enfin nous suivre sur les réseaux sociaux.
Mais merci beaucoup en tout cas Madame Carole Polo. Je rappelle que vous êtes directrice de la Fondation Agir contre les exclusions de Vaucluse, FAS. Et merci aussi à Monsieur Philippe Réchignac, directeur territorial Vaucluse chez RGRDF, d'avoir répondu à nos questions et donc de nous avoir présenté un petit peu cette action qui va se dérouler donc dans le quartier du Pou du Plan et un peu partout à Carpentras dans les prochains mois. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Merci.
Les travaux de réhabilitation du Pou du Plan ont eu pour objectif d'améliorer l'image du quartier. Pourquoi cette réhabilitation? Où en est la situation actuellement au Pou du Plan? Quels sont les futurs travaux à venir dans le quartier? Voici quelques-unes des questions que nous avons souhaité poser au maire de Carpentras. Monsieur le maire Serge-Andrieux, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir dans votre bureau ici à Carpentras pour parler du quartier du Pou du Plan, avec donc la réhabilitation du Pou du Plan. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une réhabilitation de ce quartier qui a été programmée il y a maintenant plusieurs années?
Alors pourquoi ils l'ont fait? Parce que les 400 logements avaient été abandonnés depuis 40 ans, donc il était nécessaire de faire des travaux.
Ouais, donc parler de Valis Habitat, qui est le bailleur. Hein.
Effectivement, c'est pas la ville. Là-bas, on ne possède rien.
Ouais, c'est important de préciser. Que possède Carpentras, justement, sur le Pou du Plan?
Le foyer qui est sur le bord, au bord de la route, le foyer de troisième âge. Et on a 60 mètres carrés qui sont au centre, qui est un local qu'on met à disposition pour le Tricadou. Tout le reste, ça appartient pas à la ville.
Alors comment on en est arrivé peut-être un petit peu à cette situation qu'on entend depuis ces derniers mois, avec ces problèmes de trafic réguliers, et notamment la situation aussi au Pou du Plan, l'état des bâtiments?
Le trafic de drogue, il y a quand même un phénomène particulier, c'est qu'il y a de plus en plus d'acheteurs. Donc de fait, il y a de plus en plus de vendeurs. Ça, c'est une chose. Le quartier s'y prête beaucoup parce qu'il est fermé. Donc les trafiquants peuvent travailler à l'intérieur en toute sécurité sans que ça se voit. Il y a une entrée et une sortie. Donc vous avez remarqué que chaque fois, à l'entrée et à la sortie, il y a un gardien qui est assis sur une chaise et qui, dès qu'il voit arriver des voitures louches, il se met à crier. Ce qui permet aux vendeurs qui sont à l'intérieur du quartier de jeter la sacoche sur le balcon et il leur arrive rien.
Alors ces derniers temps, on l'entend, Valis Habitat a changé d'ailleurs de directeur général. Mmh. Vous l'avez rencontré, vous avez échangé avec lui un petit peu. Qu'est-ce qui a été dit?
Alors il a été dit que pour tenter, je dis bien tenter, de réduire le trafic de drogue, ça serait de créer une voie centrale. Pour ça, il faudrait d'abord qu'il y ait un géomètre qui dise exactement la surface de la parcelle qu'il nous faut pour faire une voie, que Valis Habitat nous la rétrocède, j'ose espérer qu'ils ne vont pas vouloir nous la vendre, et qu'ils abattent une partie de la chaufferie qui permettra de passer, parce que sinon on ne peut pas passer. Vous voyez, donc ça obligerait tout le monde, tous ceux qui vont par exemple à Coubertin, de passer au milieu. Et les voies qui, tout à l'heure vous disiez, appartiennent à la commune, on les fermerait. Donc on passerait vraiment au centre du Pou du Plan. On serait dans le cœur du trafic.
Ça fait partie de deux solutions, il y en a plusieurs.
Ça en fait partie d'une, il y en a d'autres. Après, là, les autres nous concernent peu, parce que c'est vraiment une sécurisation des bâtiments. Ça, c'est à eux à le faire. C'est isoler toutes les caves, parce que c'est là-dedans que le trafic se propage. C'est pas la ville qui doit le faire. Après, de vous à moi, c'est pas la ville non plus qui doit faire la route. Normalement, c'est eux qui devraient régler le problème. On a quand même des habitants et on se doit de respecter la population.
Alors, je voudrais revenir un petit peu à la réhabilitation du quartier. Parlez-nous un petit peu de cette réhabilitation. Plusieurs tranches, notamment de travaux, ont eu lieu. Logiquement, ça devrait être livré, donc la fin des travaux, fin septembre. Vous en avez dit un peu plus lors de cette dernière réunion?
Alors non, on n'a pas parlé de ça. On a parlé de l'entretien, de la rétrocession de l'entretien de chacun. Et puis on a parlé surtout de cette voie, quoi, qu'il fallait aller envoyer le géomètre pour qu'il nous donne un plan et qu'on sache exactement comment on va faire la route et surtout à quel prix.
C'est important de souligner aussi, c'est que la mairie de Carpentras, vous avez permis d'obtenir une garantie d'emprunt. Expliquez-moi un petit peu pour Valis.
Quand Valis a voulu réaménager, réhabiliter ses appartements, elle avait besoin d'une caution et la ville de Carpentras s'est portée caution pour 9 millions d'euros auprès de la banque.
Pourquoi est-ce que vous êtes porté caution? Valis n'arrivait pas finalement à payer la totalité, à finir les travaux?
Alors pourquoi ils ne me l'ont pas vraiment dit. Ils nous ont laissé croire que si on n'était pas caution, il ne ferait peut-être pas les travaux. Ça, je pense que c'est la première solution. Mais l'idée principale, s'il n'y avait pas la caution de la ville, la banque n'aurait peut-être pas prêté l'argent à Valis.
Alors à votre avis, est-ce que la gestion des logements qui est faite par un bailleur, Valis Habitat, qui on le sait prochainement peut-être va se regrouper avec un autre bailleur, est-ce que cette gestion ne devrait pas être faite par la ville, directement par la commune?
La gestion, non, puisque c'est eux qui ont investi. C'est quand même eux qui ont acheté, ils sont propriétaires. Ça, la commune, elle peut demain faire exactement le même projet de l'autre côté et gérer ses logements. C'est pas interdit. Mais le bailleur social, c'est quand même son métier. Donc il est là pour faire ça. Mais il doit aussi s'occuper de son patrimoine.
Est-ce qu'il va y avoir d'autres projets à venir de la mairie, de prochaines réhabilitations, que ce soit au quartier du Pou-du-Plan, mais aussi dans d'autres quartiers de la ville?
Non, d'autres projets de cette taille-là, non, il n'y en a pas. Non, non, ça c'est sûr, il n'y en a pas. Après, il y a des bailleurs sociaux qui viennent sur Carpentras, qui sont autres que Aix-Mistral, Valis et Grand Delta. Eux, ils arrivent, Unicil, par exemple, ils ne demandent rien à la ville, ils font tout seuls, on n'a pas besoin d'être caution de l'emprunt, ils se débrouillent. Et ils font des logements qui tiennent la route, et apparemment, ça marche.
Monsieur le maire, pour finir, peut-être une dernière question. Vous avez quelque chose peut-être à rajouter au sujet de cette réhabilitation du quartier du Pou-du-Plan qu'on n'aurait pas précisé, que je ne vous aurais pas posé comme question?
Non, parce que d'ailleurs, la réhabilitation, nous, on ne la maîtrise pas. On a été caution de l'emprunt, c'est tout ce qu'on fait. On ne sait même pas quand est-ce que ça commence et on ne sait pas quand est-ce que ça finira. Oui. C'est peut-être déjà fini, on ne le sait pas. C'est peut-être vous qui allez nous l'apprendre.
Et une touche positive, peut-être, dans cette réhabilitation, qu'est-ce qu'on peut souhaiter?
Il n'y a qu'une chose à souhaiter, c'est que le trafic disparaisse. Mais pour qu'ils disparaissent, hormis le problème du bailleur social, il faudrait aussi que les lois françaises soient appropriées à ce qui se passe. Et aujourd'hui, je suis aussi bien les pouvoirs publics que la justice sont complètement démunis et presque on ferme les yeux parce qu'on ne peut rien faire contre ça.
Merci Monsieur le maire Serge Andrieux d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir parlé de la réhabilitation du Pou-du-Plan avec la fin des travaux, on l'espère, prévue très prochainement.
On le souhaite.
Merci.
De tout cœur.
Nouvelle année scolaire dit aussi nouveaux projets avec notamment l'expérimentation par la ville de Carpentras d'une action de familiarisation à l'école Misé-Pouzol et la participation de 30 familles. Nous avons souhaité en savoir plus avec l'interview de la directrice de l'école. Et je suis maintenant avec Madame Jarjaï, la directrice de l'école maternelle Misé-Pouzol du Pou-du-Plan. Bonjour.
Bonjour.
Alors nous allons parler un petit peu de cette action de familiarisation qui a eu lieu tout au long de cette semaine avec les futurs élèves de première année et leurs parents, donc à l'école maternelle. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette action? D'où est venue un petit peu l'idée?
Oui, alors cette action a émergé de la cité éducative qui a été créée sur Carpentras en janvier 2022. Alors les cités éducatives, c'est une nouvelle démarche impulsée par l'État dont l'objectif est de prendre en charge l'enfant à partir de 3 ans jusqu'à la fin du lycée. Voilà. Donc le financement se fait via la cité éducative, donc financement au niveau de l'État en lien avec les collectivités.
C'est une action de familiarisation une semaine avant la rentrée officielle. Comment ça s'est mis en place? Il y a aussi peut-être des enseignants qui sont volontaires, des ATSEM de la ville?
Alors cette action a été mise en place parce qu'il y a des besoins. Nous nous sommes aperçus que toutes les années, la rentrée en petite section pour les enfants de 3 ans est très très douloureuse. Elle se fait au milieu dans des pleurs, dans des crises, dans des angoisses. Donc on s'est dit que là, c'était le moment opportun de profiter des financements proposés par l'État et la collectivité pour essayer de monter un projet un petit peu innovant et faire une adaptation en amont à la rentrée en petite section. Voilà.
Combien d'enfants ont été concernés?
Alors, il y avait, nous avons 52 enfants en petite section. Et il y a eu une bonne trentaine de familles qui a participé à ce projet. Voilà. Donc cela voulait dire 4 ou 5 enfants par groupe. Il y avait 4 groupes dans chaque classe sur la journée. Les 4 ou 5 enfants venaient rester une heure et quart, une heure et demie en classe. Et ensuite, les parents venaient les rechercher et on passait au groupe suivant. Voilà.
Alors, la ville a soutenu ce projet de quelle manière?
Alors, c'est grâce à la ville que ce projet a pu avoir lieu. C'est Madame Boisserin, au service de la DVE, qui nous a beaucoup aidé à le mettre en place, notamment en sollicitant des ATSEM, parce qu'il y a fallu au niveau du personnel des ATSEM, des aides maternelles qui sont employées par la mairie, volontaires, mais bien sûr qu'elles puissent être aussi bénéficier d'une rémunération. Voilà, ainsi que 2 enseignantes qui ont été volontaires pour conduire ce projet à bien et qui ont été rémunérées par la ville.
Alors, est-ce que vous avez eu un petit peu le retour des parents? Aujourd'hui, par exemple, il y a eu le café des parents pour clôturer cette semaine. Quel a été le retour des parents? Peut-être un petit peu leur ressenti, leurs difficultés?
Alors, je pense, bon, vous l'avez entendu de vous-même puisque vous y avez participé avec nous. Les parents qui étaient présents, il y en avait une bonne quinzaine, ont été enchantés, ravis et ont conscience que ce qui a été mis en place pour leurs enfants n'est pas inutile, bien au contraire. Et ils en sont d'ailleurs très, très reconnaissants. Nous avons eu que des retours positifs.
Alors on a entendu aussi qu'il y avait des mamans qui avaient déjà amené leurs enfants à l'école maternelle et là qui amènent de nouveau leurs enfants, mais c'est une nouveauté cette année, elles ont participé à cette expérimentation.
Oui, alors il y avait des familles qui connaissent bien l'école maternelle, puisque dans ces familles-là, il y a plusieurs enfants, et notamment des grands, qui sont passés par notre école. Mais elles savent que ce projet, il a eu lieu pour la première fois cette année. Donc elles voient déjà la valeur ajoutée que ce projet-là peut apporter pour leurs enfants en termes de confiance et de sérénité le jour de la rentrée.
Alors donc un projet expérimental, est-ce que vous souhaitez peut-être l'année prochaine, alors c'est pas que vous, mais une reconduction du projet, peut-être sous quelle forme déjà?
Alors oui, nous souhaiterions, enfin moi en tant que directrice, je souhaiterais que ce projet soit reconduit, puisque je m'aperçois bien qu'il va forcément porter ses fruits. Je vais le voir dès jeudi et vendredi pour la rentrée, parce que j'ai une classe de petite section. Voilà. Maintenant, pour que ce projet soit reconduit, il va falloir aussi que nous ayons toujours pareil, le soutien de la mairie aussi.
Alors, Madame Jarjaï, pour finir un petit peu, on peut parler des parents, les parents qui n'auront pas bénéficié de cette action. Quelle va être la différence finalement entre les deux?
Alors, ceux qui n'ont pas pu bénéficier de cette action, c'est parce qu'ils n'étaient pas disponibles. Certains m'ont fait savoir qu'ils partaient pour plusieurs jours au Maroc et qu'ils ne seraient pas rentrés à temps. Donc, comment ça va se passer? Ben, écoutez, je sais que ça va être le retour va être compliqué. Je le sais très bien, ils le savent aussi. Maintenant, bon, on va peut-être faire un aménagement du temps scolaire, c'est-à-dire que ben, les premiers jours, leur enfant va venir uniquement le matin pour essayer de prendre des repères, parce que le groupe aura déjà ses repères dans la classe. Donc on va le faire tout en douceur.
En tout cas, merci beaucoup Madame Jarjaï. Donc je rappelle, vous êtes la directrice de l'école maternelle Misé Pouzol du Pou du Plan. Et donc on parlait de cette action de familiarisation qui a eu lieu sur une semaine. C'est une action expérimentale donc pour les futurs élèves de première année de maternelle ainsi que leurs parents. Merci beaucoup.
Mais écoutez, merci à vous et vous savez que vous êtes les bienvenus dans notre école.
Que pensent les parents de cette expérimentation? Souhaitent-ils la voir perdurer? Les réponses dans notre interview. Et nous sommes aujourd'hui à l'école maternelle Misé Pouzol au Pou du Plan suite à l'action de familiarisation avec l'école pour les futurs élèves de première année et leurs parents qui a eu lieu cette semaine. Et nous sommes donc avec 4 mamans et un papa. Et nous allons leur poser un petit peu quelques questions sur leurs ressentis, leurs impressions suite à cette semaine. Alors, peut-être une première question déjà. Comment est-ce que vous avez eu connaissance tout d'abord de cette action?
Par la directrice directement.
Qui vous a informé en fin d'année?
Le jour de l'inscription.
La directrice aussi, le jour de l'inscription, quand j'y suis allée.
Pareil pour tout le monde, je suppose.
Exactement.
Pareil,
oui.
Alors, moi, j'aimerais un petit peu avoir votre retour suite à cette action, suite à cette semaine. Comment ça s'est passé déjà, le premier jour, votre enfant, vous avez amené vos enfants. Il y en a peut-être, c'est pas la première fois, un petit peu.
Non, j'appréhendais beaucoup personnellement pour ma fille qui est très attachée à moi. Mais finalement, ça s'est très bien passé et elle apprécie beaucoup l'école. Et là, je repars sereine.
Ouais, donc, vous l'avez déposée lundi, elle a participé à toutes les journées.
À toutes les journées, oui. Et elle voulait revenir d'ailleurs, donc voilà.
Et pour vous?
Pour moi, ça a été la même chose. Elle voulait même pas repartir. Moi, à chaque fois, j'étais la dernière à partir parce que elle voulait pas. Et c'était maman, l'école. Et ouais, c'est vrai qu'elle le réclamait à la maison. Et c'est quand est-ce qu'on va à l'école et voir les copains, les copines. C'est vrai que ouais, c'était une très bonne expérience.
Oui, moi, c'est pareil pour ma fille. Elle était tous les jours. C'était une très très bonne expérience. Pareil, elle voulait pas repartir au bout d'une heure et quart. Elle voulait rester. Donc, à voir le jour J, comment ça va se passer sur une journée complète.
Parce que peut-être pour l'instant, il n'y avait pas tout le monde encore.
Voilà, c'est ce qu'on redoute. Le jour J, il y aura beaucoup plus de monde. Donc, est-ce qu'ils vont avoir la même objectif de jouer ou alors est-ce qu'ils vont être plus restreints? On verra. Mais bon, je pars sereine dans le sens où je pense que ça va bien se passer.
Et pour vous, trois fois, mais là, la première fois.
Mais là, c'était pas le cas de ma fille. En tout cas, il a pleuré. Il lui a fallu trois jours pour qu'elle commence à s'habituer petit à petit. Donc, je suis très, très contente. Et du coup, ça l'a permis de s'habituer, de s'adapter petit à petit. Et elle a même fait une copine, en fait. C'est rapide. C'est fait une copine. Donc, à la maison, elle me parle de Lucie, déjà. Donc, ça va.
Et pour le papa, alors on va poser la question un petit peu. Comment ça s'est passé un petit peu, votre ressenti?
Ah c'est très agréable. Au contraire, ça a mis ma fille en confiance sur ces quatre jours. Elle s'est mise à l'aise. D'ailleurs, le dernier jour, elle a gardé son sac à dos toute la journée à la maison, prête à repartir, à dormir, etc. Mais voilà, non, très bien. Et c'était agréablement surpris de faire ce genre de choses, ouais.
Alors, est-ce que vous avez eu des questions peut-être tout au long de cette semaine que vous avez posées aux enseignants, à la directrice? Est-ce que vous avez eu les réponses adéquates justement à ce sujet?
Je pense que la question qu'on se posait tous, c'est est-ce que ça se passait bien? Et finalement, on a eu de bons retours, donc voilà.
La même question aussi, et c'est vrai que ouais, voilà, ça se passait aussi super bien, donc à voir à la rentrée après.
Oui, pareil, ça se passait bien, c'est ce que j'attendais, le retour de la petite.
D'accord, et pour le papa?
Ouais, non, très bien aussi, c'est pareil.
Et justement, la prochaine étape, ça va être la rentrée. Comment est-ce que vous préparez ça un petit peu chez vous, peut-être avec vos enfants?
Moi, je le sais qu'elle va être appris avec plusieurs personnes, mais c'est ce que je redoute. Beaucoup d'enfants autour d'elle. Elle est très sociable, moi, la mienne, donc je pense que ça va bien se passer. Mais est-ce qu'elle va pouvoir jouer comme elle a envie avec tout le monde? Parce que là, c'est vrai qu'un petit groupe restreint, c'est... Voilà, c'est ma copine, tu la touches pas. Donc là, on verra quand ils seront 26 enfants, comment ça va se passer. Mais bon, il n'y a pas de raison.
Franchement, moi, du coup, ça nous a aidé par rapport à cette semaine. Du coup, on va préparer beaucoup plus sereinement la rentrée, enfin, aujourd'hui. Du coup, on est beaucoup plus à l'aise et on n'est pas stressé, en fait. Ça nous a permis vraiment d'être à l'aise, en fait. Voilà.
Oui, je maintiens. Là, ça met, y a un climat de confiance qui s'est créé, même si on va être des groupes de 26, si je ne dis pas de bêtises. Après, voilà, c'est toujours pareil. Les enfants vont rentrer, ils vont se familiariser. Ça va créer des petits groupes socialement. Ça va très bien se passer. Donc, non, c'est très bien.
Alors, il y a un sujet qui a été abordé aussi pendant le Café des parents qui a eu lieu aujourd'hui. C'était la sieste. Il y a eu pas mal de questions sur cette partie-là. C'est quelque chose que vous avez un petit peu peur?
Personnellement, connaissant ma fille, elle dort beaucoup, donc elle n'aime pas être réveillée. C'est tout ce qui m'inquiète, on va dire, pour les professeurs.
Moi, c'est vrai qu'elle a du mal un peu à faire la sieste. Elle a tendance à pas vouloir ou alors à tout faire pour retarder le moment de la sieste. Et c'est oui, mais non, mais maman, je veux de l'eau. Oui, mais maman, il faut changer la couche ou j'ai envie de faire pipi. Ou il y a toujours un truc qui va pas. Et c'est vrai que là, le fait que elle fasse la sieste à l'école et pas à la maison, j'ai peur qu'elle pleure peut-être un petit peu au début et qu'elle ait du mal à assimiler les choses et qu'elle fasse tout justement comme à la maison pour retarder la sieste. Après, on verra bien.
Mais moi, le truc, c'est que quand elle a envie de dormir, elle ira. Mais le jour qu'elle a décidé que c'est non, c'est non. Moi, la maison, c'est la même. Si elle me dit que c'est non, c'est non. Et puis après, madame, elle dort à 6h de l'après-midi. Voilà.
Donc, on va s'adapter.
Oui, mais j'espère. Après, je pense que, comme je disais avec les dames, tous les petits vont s'entraider entre eux. Donc, je pense que le fait de voir, tiens, ma copine, elle fait dodo, donc je vais faire dodo avec elle. Je pense qu'après, il va faire quoi? Comme elle a dit la directrice, 15 jours d'adaptation à peu près. Après, ils vont tous s'entraider. Après, si elles ne veulent pas, elles ne veulent pas. Comme je disais à la directrice, elles ne veulent pas, elles ne veulent pas. Moi, de base, à 1h30, je veux qu'elle soit couchée. Si je vois qu'à 14h, elle ne dort pas, c'est qu'elle n'a pas décidé, donc elle ne dormira pas.
Et pour la maman qui a déjà un retour sur les précédentes années, et comment ça s'est passé alors?
Bah, justement, donc pourquoi je vais revenir toujours sur la semaine de l'adaptation. Du coup, avec les autres, il aura fallu un mois pour qu'ils s'adaptent. Donc pendant un mois, des cris, des pleurs et tout ça. Donc j'aurais aimé. Enfin là, par exemple, là, ils vont gagner une semaine. Donc ça va faire moins en fait. Et pour la sieste, moi je reviens sur le sujet de la sieste, ça m'angoisse aussi un petit peu parce que du coup la mienne, depuis qu'elle a arrêté la crèche, du coup elle ne fait plus la sieste à la maison. Donc ça reste un point d'interrogation.
Donc il faudra voir avec peut-être les enseignants ce qui va se passer.
Oui, on verra bien. Du coup, pire, je la laisse à la maison et je la ramène à 15h.
Et pour le papa, alors la sieste?
Ah ben nous à la maison la sieste c'est une catastrophe. Après chez la nounou, ben voilà exactement comme on dit, c'est dès qu'il y a du monde qui va se coucher, c'est une entraide, donc elle dort chez la nounou. Donc logiquement je me fais pas trop de soucis pour ici.
Donc on verra un petit peu tout ça. Dernière question, est-ce que vous conseilleriez peut-être cette action qu'on le rappelle expérimentale cette année? Est-ce que vous souhaiteriez peut-être que l'année prochaine ce soit renouvelé dans d'autres écoles, que vous conseilleriez peut-être à des parents aussi que vous rencontrez?
Ah oui, c'était une très bonne expérience et je trouve que ça permet de préparer, comme on en parlait, ça permet de préparer les parents et les enfants aussi à ce qu'ils se disent, ben en fait, on va à l'école et voilà, et prendre ça comme la maîtresse elle disait, comme la directrice elle disait, prendre ça comme un amusement et leur dire, ben on va jouer avec les copains et les copines. Moi je sais que c'est ce que je faisais avec ma fille pour la petite, ben on va retrouver la copine et la copine, et c'est vrai qu'elle était super contente. Et oui, je le conseille du coup aux futurs parents qui vont emmener leurs enfants à l'école de le faire, et c'est une très bonne expérience et ça permet de vraiment tout bien préparé.
Pareil que la dame, donc je sensibilise beaucoup les parents à faire cette expérience parce qu'ils ressentiront, on va dire, plus rassurés, plus sereins pour la rentrée, qui n'est pas, on va dire, quelque chose de facile, surtout pour des enfants qui n'ont jamais été en collectivité. Et il ne faut pas croire que le fait qu'ils soient à la crèche, ça va les aider parce que des fois, c'est trompeur. Donc l'école, c'est un autre domaine, c'est une autre expérience. Et donc, je conseille vivement les parents à faire cette expérience.
Pareil, j'espère que pour cette école l'année prochaine, le projet sera reconduit, puisque c'est une bonne expérience pour les enfants. Ça permet de découvrir d'autres lieux et de se familiariser avec leurs enseignants, avec beaucoup moins de monde qu'après.
Très bonne initiative. Je tiens d'ailleurs à remercier la personne qui a eu l'idée de proposer ce projet. Et je souhaite quand même que toutes les écoles prennent cette initiative et de l'essayer. C'est que du positif, je pense.
Et le dernier mot pour le papa?
Ah ben, je crois qu'elles ont tout dit, honnêtement. J'ai pas trouvé d'argument mieux que ça, donc elles ont entièrement raison.
Mais en tout cas, merci beaucoup aux quatre mamans et au papa d'avoir participé donc, à ces quelques questions que je vous ai posées un petit peu pour le retour sur cette action de familiarisation avec l'école pour les futurs élèves de première année de l'école maternelle. Donc, merci de vous être prêté au jeu des questions.
Merci à vous. Et bonne continuation. Merci.
Au foyer de l'amitié, au Pou du Plan, avait lieu l'action Job Recrute dans le cadre des cercles de l'emploi et du recrutement. Cette action expérimentale rentre dans le cadre du contrat de ville. Nous nous sommes rendus sur place à l'occasion de cette matinée. Et nous sommes aujourd'hui au Pou du Plan, au foyer d'amitié, où nous allons parler de Job Recrute, les cercles de l'emploi et du recrutement, avec à nos côtés tout d'abord la mission locale, avec Gisèle qui est conseillère. Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons aussi à nos côtés Géraldine Strollo qui est coordinatrice au sein de l'Université Populaire Ventoux. Bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, moi je me pose une petite question. Qu'est-ce que c'est les cercles de l'emploi et du recrutement un petit peu, et par qui c'est organisé et qui sont les partenaires qui soutiennent cette action, Géraldine?
Donc c'est une action expérimentale que nous avons démarrée cette année dans le cadre du contrat de ville de Carpentras. Et l'idée, c'est de travailler sur du circuit court de l'emploi et de rapprocher des employeurs par rapport à des personnes qui habitent dans les quartiers prioritaires, hein, puisque c'est un financement contrat de ville. Et l'idée, c'est que on relève les besoins des employeurs, on fait de la prospection auprès des gens, on les sollicite, on leur explique de quoi il s'agit, on les prépare éventuellement quand on peut, et on les met en relation avec l'employeur qui vient expliquer ses besoins aussi directement. Après, la rencontre se fait entre les éventuels salariés et l'employeur.
Alors donc là, ce matin, par exemple, il y a des habitantes du Pou du Plan qui sont venues ici assister donc à la présentation de l'AEDMR, donc un réseau national associatif de services à la personne, qui a présenté un petit peu donc l'AEDMR et qui va potentiellement recevoir les habitantes. Est-ce qu'elles ont été préparées en amont ou elles sont venues spontanément?
Les personnes qui sont là, certaines sont venues spontanément, d'autres ont été orientées par leur accompagnateur socio-professionnel ou référent au niveau de Pôle emploi ou mission locale. D'autres fois, effectivement, on a pu les rencontrer en amont. Bon, cette fois-ci, ça n'a pas été le cas, mais là, du coup, c'est des démarches spontanées, on va dire, ou des orientations auprès de par Pôle emploi ou la mission locale.
Alors justement, la mission locale, vous Gisèle, quel a été votre rôle en amont et aujourd'hui ?
Mon rôle a été donc de donner les informations nécessaires pour que les autres conseillers aussi puissent orienter et aussi envoyer donc des mails et des SMS voilà aux jeunes qui pourraient correspondre à ce type d'offre.
Et nous avons maintenant à nos côtés Madame Leroy qui fait partie de l'ADMR et qui est assistante recrutement. Bonjour.
Bonjour.
Alors parlez-moi un petit peu de ce réseau national associatif de services à la personne.
Alors c'est un réseau de services à la personne où on recrute essentiellement des aides à domicile, assistantes de vie et auxiliaires de vie. Donc on a 4 domaines d'intervention hein, autres que l'aide à domicile. Donc aujourd'hui je vais me concentrer sur ce service-là. Donc c'est le pôle service et soins aux seniors. On recrute sur l'ensemble du département de Vaucluse et essentiellement sur la partie Ventoux, donc de Carpentras, Mormoiron, Mazan, Bédouin et jusqu'au plateau de Sceaux.
Et donc là, aujourd'hui, expliquez-moi un petit peu votre présence.
Eh bien, j'essaye de recruter. Donc, mon but, c'est voilà, de faire connaître aussi l'ADMR, de faire des présentations hein, au sein, avec l'UPV Bantou, avec des missions locales ou Pôle emploi, expliquer aussi un petit peu le métier d'aide à domicile, nos avantages hein, pour essayer de les faire venir chez nous et voilà, et essayer de recruter par la suite.
Quels sont peut-être les critères de sélection attendus pour peut-être pourquoi pas participer et être dans le domaine du service à la personne ?
Alors, les critères de sélection, c'est avoir avant tout une réelle motivation pour le secteur du service à la personne. Voilà, aider son prochain. Après, c'est soit avoir une expérience ou un diplôme, hein, tel que le BEP ASSP, pardon, anciennement donc carrière sanitaire et sociale, un diplôme dans le secteur. Ça va être les critères de sélection et les impératifs permis B plus véhicule et le pass vaccinal complet parce qu'on fait partie du médico-social.
Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir ? Je suppose que oui, actuellement ?
Actuellement, sur l'ensemble du département, oui. Parce qu'on a des besoins aussi sur le Grand Avignon, sur le Sud Vaucluse et le Nord Vaucluse. Donc, en ce moment, oui, on a beaucoup de besoins.
Là, vous participez donc aujourd'hui à une présentation un petit peu de l'ADMR. Mais est-ce que c'est de plus en plus difficile finalement de recruter ? Est-ce qu'il y a toujours une forte demande aussi ?
Alors, on a toujours une forte demande hein, parce que des personnes qui veulent rester à domicile, il y a de plus en plus de demandes dans ce sens-là. Ensuite, effectivement, on rencontre une problématique actuellement sur le recrutement, pas que sur notre secteur. Hein, il y a aussi sur le secteur de la restauration notamment et du BTP. Donc effectivement, c'est une grosse problématique, mais... il faut rester optimiste.
Et merci beaucoup Madame Leroy, je rappelle que vous êtes assistante recrutement au sein de l'ADMR. Et pour finir, je vais revenir vers Géraldine Strollo de l'Université Populaire Ventoux. Est-ce que les cercles de l'emploi et du recrutement, c'est une action qui va être renouvelée ?
Cette année, oui. Et donc jusqu'à la fin de l'année, on a différents thèmes qu'on va travailler, puisque je crois que les futurs thèmes, c'est la sécurité. On a aussi des thèmes pour le mois d'octobre concernant les recrutements auprès des pépinières, etc. Et puis s'il y a d'autres thèmes qui viennent, s'intercaler en fonction des besoins. L'idée, c'est de faire très rapidement cette mise en relation et finalement, comme on est sur un noyau de personnes pas très grand, ça permet d'être d'autant plus réactif.
Alors, il y a eu donc des actions qui ont eu lieu régulièrement dans les quartiers, aujourd'hui au bout du plan.
Le mois dernier, donc sur une action qui était spécifique, qui était liée au métier de chauffeur de bus. Et du coup, il y a eu des recrutements, effectivement, des gens qui sont venus. Je crois que sur 10 personnes, il y a eu 4 personnes qui étaient intéressées, qui ont été recrutées pour la formation et ensuite la contractualisation pour être à l'emploi.
En tout cas, on espère aujourd'hui voilà, que suite aux entretiens, il y aura autant d'embauches donc pour le secteur du service d'aide à la personne. Merci beaucoup, Géraldine Strollo.
Et si d'autres personnes sont intéressées suite à l'interview, ils n'hésitent pas à nous contacter, on les mettra en relation.
Comment ils font ?
Donc, ils nous appellent au 04 90 61 76 10 ou ils viennent nous voir à côté de la Porte d'Orange dans nos locaux de l'UP Ventoux au 214 boulevard Maréchal Leclerc.
Merci beaucoup Géraldine Strollo, donc je rappelle que vous êtes coordinatrice au sein de l'Université Populaire Ventoux. Le public a répondu présent pour participer à l'action Job Recruit. Nous avons souhaité connaître leur avis et ressenti suite à cette matinée. Et nous sommes maintenant avec Léonie au foyer de l'amitié au Pou du Plan à Carpentras. Bonjour Léonie.
Bonjour.
Pourquoi est-ce que vous êtes venue ce matin sur cet atelier?
Je suis venue ce matin parce que d'abord le métier de transport c'est un métier qui me plaît bien. Et du coup pour moi c'est une nouvelle découverte puisque je compte faire une reconversion professionnelle. C'est ce qui m'a motivée à venir.
Pourquoi une reconversion professionnelle?
J'ai toujours travaillé dans l'agroalimentaire. Donc pourquoi ne pas se diriger dans le domaine du transport?
Et donc ce matin, vous avez eu peut-être pas mal de réponses à vos questions?
Oui, un petit peu, oui.
Quelles ont été les questions? Quels sont peut-être les blocages que vous avez par rapport à ce métier?
Les blocages pour moi, c'était d'abord la communication avec la clientèle, si je peux dire ça. C'est-à-dire le monde. Le domaine du transport, on croise plusieurs types de personnes. Donc la communication, si je peux le dire.
Alors là, vous avez aussi été en entretien individuel. Quels ont été les thèmes abordés lors de cet entretien?
Les thèmes abordés, c'était d'abord pourquoi est-ce que je voudrais être dans le domaine du transport. Et de deux, si je souhaiterais avoir un CD ou commencer avec un CDD.
Alors il y a des formations à passer puisque vous n'avez peut-être pas le permis poids lourd ni transport public.
Pour ça aussi, j'en ai eu des formations pour le permis parce que moi, j'ai cru qu'avec mon permis B, je pouvais y intégrer. Mais après, il faut passer aussi le permis D. J'en ai eu plusieurs formations dont je ne savais pas. Et donc, en ce moment, je n'ai pas tout retenu. Mais tout compte fait, j'ai été informée et ça m'a fait plaisir. Voilà.
Alors, est-ce que vous souhaiteriez peut-être dans l'avenir avoir d'autres activités de ce type, d'autres informations sur les emplois à pourvoir?
Oui. Dans l'avenir, je souhaiterais avoir plus d'informations parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un métier qui me plaît, que j'aimerais intégrer, voilà.
Est-ce que vous avez des enfants?
Oui, j'ai une fille.
Est-ce que ça peut être plus ou moins difficile avec ce métier, vu les amplitudes horaires?
Moi, je pense que pour mon cas, ce n'est pas trop difficile parce que ma fille, elle a 10 ans et je suis avec son père. Donc, après, c'est une question d'organisation.
Bonne continuation.
Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.
Et nous sommes maintenant avec Mousaoui. Bonjour, Mousaoui.
Oui, bonjour, monsieur.
Merci du coup d'accepter de répondre à nos questions. Alors, on est ici aussi dans le cadre du Job Recruit sur les métiers du transport. Et donc, la première question que je souhaiterais vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui sur cette activité?
Parce que je trouve que c'est intéressant pour moi. Mais pas maintenant, peut-être après.
D'accord, donc là, ce matin, vous êtes présente depuis le tout début de l'atelier. Qu'est-ce qui a été abordé un petit peu?
L'équipe qui ont tout donné pour, par exemple, des informations.
Et est-ce qu'il y avait des choses que vous ne saviez pas, que vous avez découvert?
Oui, beaucoup de choses, ouais.
Par exemple quoi?
Concernant le bus, comment ça se passe, beaucoup de choses.
D'accord. Donc vous me disiez hors antenne que c'est plus ou moins difficile par rapport, c'est les horaires qu'il va falloir adapter par rapport à vos enfants?
Par rapport à mes enfants, par rapport à mes disponibilités aussi, et par rapport aussi à mon permis qui est récent.
D'accord. Ouais. Et donc là, il faut passer un permis particulier aussi, je suppose?
Oui, il faut l'ancienneté. Oui, d'accord. Pour aborder ce travail, c'est difficile pour les nouveaux.
Et là, justement, c'est un métier que vous allez faire quoi, localement? Ça va être sur un rayon de quoi, de 15 km, le département? Non, c'est local?
Non, je pense pour l'instant, c'est local.
D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
De rien.
Bonjour Maria.
Bonjour.
Alors, expliquez-moi un petit peu, Maria, pourquoi vous êtes venue aujourd'hui sur cet atelier sur les métiers du transport?
Je suis venue pour un premier approche, car le métier m'intéresse. Dans la famille, j'ai des frères qui sont dans le métier, de chauffeur poids lourd, chauffeur de car. Du coup, pour moi, c'est plus un challenge, une expérience à faire et voir par la suite si c'est possible, car j'ai des enfants et je suis maman solo et voir pour plus tard.
D'accord, et qu'est-ce que vous attendez peut-être de cette journée? Là, je sais qu'il y a des rencontres individuelles.
Voir avec le personnel, voir si c'est possible de le faire. Comme je vous ai dit, voir mes contraintes par rapport à mes enfants et voir si c'est possible, quoi. Mais j'envisage de le faire et de voir pour plus tard si c'est possible. Je vais poser mes questions plus tard.
Et au niveau des moyens de garde, est-ce que vous avez réfléchi comment vous pouvez faire du coup?
Là, j'ai vu avec la COV, on m'a dit qu'il y avait des moyens de garde. Et là, j'ai pris rendez-vous du coup pour poser mes questions par rapport aux moyens de garde.
Et qu'est-ce que vous pensez du coup de cette activité? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'il y en ait un peu plus pour connaître les différents métiers?
Moi, j'aurais aimé avoir un témoignage, voilà. Parce qu'il y a une maman solo qui est dans mon cas, elle a réussi à le faire. Je me dis pourquoi pas nous, les mamans aussi solo, pourquoi on ne réussirait pas? Donc j'aurais aimé avoir son témoignage.
Et du coup, ce matin, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu? Qu'est-ce qu'ils ont expliqué?
Bah, ils ont expliqué par rapport aux horaires, les contraintes, beaucoup de contraintes, mais bon, après ça, c'est normal. Moi, je trouve que ma situation, maman solo, par rapport aux vacances scolaires, du coup, je suis un peu le rythme de mes enfants. Donc ça, c'est très, très bien.
Alors, Maria, est-ce que vous souhaitez rajouter peut-être quelque chose à l'occasion de cette journée?
Je trouve qu'ils ont bien répondu à mes attentes. Du coup, je vais faire un entretien pour poser un peu plus mes questions qui sont plus personnelles. Voilà.
Merci beaucoup, Maria.
Merci à vous, bonne journée.
À l'école Joupe de Carpentras avait lieu la présentation de l'action Atteler au Pouls du Plan qui se déroulera tout au long de l'année scolaire et portée par l'Union Athlétisme Carpentrassienne. Nous avons souhaité en savoir plus. Et nous sommes aujourd'hui à l'école Joupe où on va parler de l'action Atteler au Pouls du Plan qui va être mise en place par l'Union Athlétisme Carpentrassienne. Et à nos côtés, nous avons tout d'abord le président de l'association, Monsieur Fagot Eric. Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons aussi Monsieur Ruiz Angel qui est référent éducateur sportif. Bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, Monsieur Fagot, je vais commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette action?
Ben, c'est une action qu'on devait faire depuis plusieurs années. Et puis donc notre manager Sébastien Cross, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a mis tout ça en place, un gros dossier, il a passé du temps là-dessus. Parce que maintenant, on a quand même des éducateurs sportifs diplômés d'État. Depuis 2 ans, on a fait des efforts pour avoir des professionnels. C'est le cas depuis 2 ans. Et en plus, Angel, qui est là aussi, qui vient là et qui va travailler pas mal d'heures au club. Voilà, par un système de Pôle emploi, etc. Enfin, on va pas tout raconter. Et du coup, on a foncé, quoi, pour aider les enfants du quartier.
Alors justement, cette action, elle va se dérouler où exactement?
Alors, ça va se dérouler sur le vrai terrain d'athlétisme de Coubertin. Donc avec les installations sportives, sautoirs, etc., le matériel qu'il faut, dans le lieu vraiment qu'on voit la télé, la piste, etc.
Alors justement, quel va être concrètement le programme, par exemple, les premiers ateliers, donc les mardis, on a dit, entre 16h et 18h?
Et en fait, c'est des ateliers qui sont adaptés à leur âge. Hein. Ils vont pas faire du saut à la perche au-dessus d'un élastique tout de suite. C'est adapté à leur âge, sous forme de jeu. C'est un contenu pédagogique de la Fédération Française d'Athlétisme qui fait ça pour ces enfants-là. Et on fera donc plein de variantes pour leur faire découvrir, surtout faire travailler la motricité athlétique du gamin.
C'est un projet expérimental. À combien de jeunes ça va s'adresser dans un premier temps?
Là, au niveau de l'école François Jouve, là, ça sera à peu près Nous, on avait dit on peut jusque 30, mais là, je crois que ça va être par rapport au projet financier, c'est 20 élèves. Donc, nous, ce qu'on veut avec la COV, etc. L'objectif, c'est que ces enfants-là puissent venir régulièrement, qu'ils s'attachent à quelque chose. C'est pour ça qu'on leur offre la licence. Tout est gratuit. Ils vont avoir un petit maillot. Et petit à petit, on essaiera de les intégrer dans ceux qui viennent au club le mercredi après-midi pour essayer d'intégrer quelque chose, quoi.
Alors, vous précisiez que c'était gratuit pour les familles, mais il y a un financement, du coup, de la ville et de la COV dans le cadre de sport.
Oui. C'était un dossier à remplir. On s'est appliqué pour le remplir. Ça a été accepté. Du coup, nous, on fonce, quoi.
Alors, je vais me tourner maintenant vers Ruiz Angel. Ruiz, Angel, toi, ton rôle, ça va être quoi un petit peu pendant ces ateliers?
Moi, mon but, ça va être de gérer le groupe et de les faire progresser. Moi, je vais être l'éducateur sportif référent. Donc, c'est moi qui vais justement mener et justement encadrer les différentes activités de la journée.
D'accord. Et tu faisais déjà partie de l'Union Athlétisme Carpentrassienne avant?
J'ai été embauché là début septembre. Mais en plus de ça, je suis employé par la Maison des Sports du département de Vaucluse à Avignon. Et je fais partie aussi du comité départemental de kayak, etc.
Oui, donc voilà. Des secteurs que tu connais bien, bon recrutement.
Oui, on verra ça. De plus, cette école me parle beaucoup parce que j'ai été éducateur sportif à la mairie de Carpentras et à la COV. Et ici, j'ai travaillé 25 ans. Voilà.
Et pourquoi la mise en place de ce projet? Est-ce que ça a été une demande au départ ou est-ce que c'est vous êtes dit il faut qu'on fasse ça pour le Pouls du Plan?
Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je l'avais en tête depuis des années, mais on n'avait pas les moyens humains pour encadrer ça d'une manière professionnelle. Voilà. Du coup, là, ça y est, on commence à mettre des choses avec Angel, mais pas qu'Angel, il y a d'autres éducateurs qui sont là au cas où il y en a absent, on peut être remplacé. Voilà, ça c'est bien chapeauté.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Monsieur Fagot Eric, donc président de l'association donc l'Union Athlétisme Carpentracienne. Ouais. Merci aussi à Ruiz Angel, référent éducateur sportif donc pour les prochains ateliers. Et puis on espère que voilà les familles, les enfants ou même les parents qui ont entendu cette interview en sauront un petit peu plus sur cette action. Et ceux qui sont à François Joux pourront peut-être le relancer. Donc les CM2, classe de CM2 pour l'instant.
CM2, oui, les CM2 qu'on prend pour le moment.
Nous arrivons maintenant au terme de l'émission Quartier Libre. Merci à tous les participants lors des différentes interviews. Je rappelle que nous avons abordé la question de la réhabilitation et du logement et nous avons mis en avant les actions qui n'existent qu'au bout du plan. Cette émission est disponible dès maintenant en podcast sur notre site et sur les plateformes de podcast habituelles Spotify ou encore Deezer, ainsi que sur nos réseaux sociaux. La prochaine émission Quartier Libre concernera le centre-ville de Carpentras. A bientôt sur l'antenne d'RTVFM.
Vous venez d'écouter Quartier Libre, réalisé en partenariat avec l'État, la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venessin, le conseil départemental, la ville de Carpentras et les bailleurs sociaux.